à la présentation du journal Babel Pongo Massimango.
Bonsoir. De violents combats aujourd'hui entre l'armée appuyée par les casques bleus de la MONUSCO contre l'ADF dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. C'est une réponse à l'attaque d'Eringeti dimanche par ces rebelles ougandais. Dans l'actualité aussi, le refus de l'UDPS de participer au dialogue annoncé par le chef de l'État. Le parti d'Étienne Tshisekedi lui reproche notamment de chercher à tout organiser à sa manière. Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida en RDC. Des avancées sont enregistrées, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous ferons le point à Mbujima et le taux de prévalence a baissé de près du tiers. Et à Gomo, la prise en charge des PVV pose encore problème. L'aviation militaire de la MONUSCO pilonne depuis ce matin plusieurs positions de l'ADF dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Sans donner des détails sur les positions rebelles attaquées, le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO affirme que c'est une réponse des casques bleus en appui FRDC après l'attaque violente de la localité d'Eringeti dimanche dernier par ces rebelles ougandais. Ces actions ont pour but de neutraliser toutes les positions de l'ADF, précise le général Jean Bayo au micro de Martial Papimukeba.
Toute la journée de dimanche, jusqu'à présent, nous avons non seulement suivi la situation, mais pris un certain nombre d'actions. Je tiens à souligner la gravité, effectivement, de ce qui s'est passé à Eringeti. Et ce sont des combats extrêmement durs qui ont malheureusement coûté la vie d'un casque bleu du Malawi, blessé gravement un autre, et aussi endommagé certains de nos véhicules auxquels nous avons dû faire face. Nous avons réagi. Nous sommes actuellement en action. Nous avons suivi, par différents moyens, le chemin pris dans la brousse par ces terroristes, par ces criminels, et nous les avons attaqués ce matin. Avec nos hélicoptères, avec notre artillerie, nous avons démontré effectivement que le moment d'éradication et de neutralisation de ce groupe a commencé. Les actions qui suivent effectivement les attaques d'Eringeti concernent effectivement la MONUSCO en appui des FRDC. Elles visent à neutraliser les positions d'ADF à l'intérieur de la forêt. Elles ont lieu actuellement.
Tous les bureaux de l'État étaient fermés cet avant-midi à Mahagui en Ituri. Les agents et fonctionnaires de l'État étaient en sit-in devant le bureau administratif de Mahagui. Ils manifestaient leur colère après le braquage hier du véhicule transportant leur salaire d'octobre-novembre. Ce braquage a eu lieu à Libi, localité à 100 km au nord de Bounia, territoire de Djougou. L'administrateur du territoire parle de plus de 100 millions de francs congolais emportés par les malfaiteurs qui étaient armés. Marcel Kizabiamungu, parlez-nous des circonstances de ce braquage.
C'est vers 16h local qu'une voiture qui convoyait les salaires des fonctionnaires et agents de l'État est tombé dans une embuscade des quatre hommes munis d'armes AK-47, précisément à la rivière Di, à l'entrée de la localité de Libi, dans la collectivité secteur de Walindupiti. Selon l'administrateur du territoire d'Ndjougou, cette voiture provenait de Bounia pour Mahagui, avec à bord les comptables d'État de Mahagui et son chauffeur. Idrissi Kokodila indique que ces malfrats qui roulaient dans un véhicule fumé ont arrêté la voiture qui transportait l'argent en demandant à tous les passagers à bord de descendre. Ils les ont ensuite menacés de mort avec leur fusil avant de les dépouiller de tous leurs biens. Ce matin, sur place à Mahagui, tous les bureaux des services de l'État sont fermés. Les agents et fonctionnaires de l'État ont fait un sit-in pour manifester leur colère. Les présidents de leur syndicat demandent qu'une enquête soit diligentée quant à ces pour savoir les mobiles de ces braquages. Claude Malobi qualifie ces braquages d'une mise en scène perpétrée par certaines personnes. Entre-temps, l'autorité territoriale rapporte que les comptables d'État qui convoyaient cet argent est à la disposition de la police à Fataki. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Capi.
Parlons politique. Avec le refus de l'UDPS de participer au dialogue annoncé par le chef de l'État, elle accuse Joseph Kabila de vouloir organiser un dialogue à sa manière. Elle accuse également de dérives visant la modification du système électoral. Selon le secrétaire national en charge des relations extérieures du parti d'Étienne Tshisekedi, le seul dialogue auquel le parti souscrit reste celui qui sera convoqué par un facilitateur international neutre. Et ce dialogue, précise Félix Tshisekedi, aura comme priorité notamment de discuter de l'organisation des élections législatives et présidentielles dans les délais constitutionnels. Félix Tshisekedi l'a dit à Jeff Goy.
L'UDPS participera à un dialogue qui se placera sous l'égide de la communauté internationale. Donc, un dialogue à la sauce Kabila ne nous intéresse pas et lui le sait d'ailleurs parce que nous avions eu deux rounds de pré-discussion avant le dialogue. Donc, il sait très bien que ce dialogue doit se tenir de manière concertée. Il faut que nous nous entendions à la fois sur la date, sur le lieu, sur les thèmes, etc. Or, nous voyons qu'il est en train de diriger tout seul les choses en essayant d'imposer sa vision. Et ça, nous disons non, donc nous ne participerons pas à un dialogue made in Kabila. Il fallait laisser à la communauté internationale, au secrétaire général de l'ONU, de désigner un facilitateur. Nous ne comprenons pas cette précipitation. Elle cache manifestement quelque chose, d'autant plus que dans son discours, M. Kabila a été totalement à faune sur les problèmes qui le concernent, c'est-à-dire la fin de son mandat et l'alternance démocratique.
Félix Tshisekedi, par en santé, nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Nous faisons le point de la situation d'abord au Kasaï oriental dans son ancienne configuration avec ce constat positif. Le taux de prévalence du VIH-Sida a considérablement reculé. Il est passé d'environ 5% en 2007 à 1,8% actuellement. Ceci ressort de la situation épidémiologique dressée aujourd'hui par le programme national de lutte contre cette pandémie à l'occasion du lancement des activités de lutte au Kasaï oriental. Notez que quoi qu'on baisse, ce taux reste au-dessus de la moyenne nationale, indique le responsable de la coordination provinciale du PNLS, plutôt, Dr Désiré Isséloko. On parle au micro de Chris Moukand.
Il y a eu quand même des avancées significatives, hein, parce que nous sommes partis d'une prévalence autour des 5% vers les années 2007-2008. Aujourd'hui, nous sommes à une prévalence autour de 1,8%. Mais il faut dire que le point demeure encore entier parce que notre prévalence est quand même supérieure à la moyenne du pays, qui est autour de 1,2%. Nous pensons que les efforts des partenaires et l'engagement aussi au niveau des parties prenantes dans la lutte, c'est ce qui a fait que la courbe soit maintenant infléchie. Mais beaucoup de choses restent à faire. Hein. En termes de couverture, nous sommes à 57% pour 51 zones. Les activités sont intégrées seulement dans 22 zones. Et bien que la sérosurveillance est menée dans les zones de santé qui sont appuyées, nous pensons qu'à l'avenir, on doit aussi quand même de temps en temps aussi récupérer les zones qui ne sont pas appuyées dans la prévalence pour nous donner vraiment une idée exacte de cette prévalence. Mais nous pensons que les efforts ont été consentis à tous les niveaux et c'est une satisfaction pour nous. Mais beaucoup de choses restent à faire auprès des acteurs.
Au Nord Kivu, si des progrès ont été réalisés dans le domaine de l'information, la prise en charge médicale et nutritionnelle des personnes vivant avec le sida pose toujours problème. C'est ce que dit l'Union congolaise pour les organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'organisation dénonce le non-décaissement des fonds du budget provincial consacré à cette lutte depuis maintenant 3 ans. Gabriel Wamina nous fait le point.
En rapport avec le thème national de cette année, qui est prix d'engagement et prix de ressources pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030, ICOP demande au gouvernement de mettre des fonds à la disposition des structures sanitaires au Nord Kivu. C'est là pour une prise en charge médicale globale. Selon la présidente de cette plateforme qui regroupe 28 associations, bien que les ARV sont disponibles, ces dernières ne disposent pas de médicaments pour lutter contre les infections opportunistes. Elle plaide pour que le gouvernement disponibilise un fonds pour la prise en charge correcte de ces infections. Madame Françoise Kaindo.
Les antirétroviraux sont là, mais il manque plusieurs médicaments. Aussi, certains examens des laboratoires pour les PVV. En outre, les PVV ne sont pas bien soignés, la prise en charge n'est pas correcte, ce qui cause actuellement beaucoup de décès.
De son côté, le coordonnateur provincial du programme national du lutte contre le VIH-Sida, le docteur Gashinge, dit que la plupart des PVV sont vulnérables et dépendantes. Il revient, dit-il, au gouvernement de mettre en place une stratégie qui permette aux PVV d'organiser des activités génératrices de revenus pour leur auto-prise en charge. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Il faut accélérer la riposte au VIH-Sida. C'est l'appel lancé par le chef de la MONUSCO, le directeur pays d'ONU-Sida en RDC aujourd'hui, à l'occasion donc de cette journée consacrée à la lutte contre la pandémie du sida. Pour Maman Sidikou, tous les moyens de prévention doivent être mis à profit pour éviter de nouvelles infections. Tous les services nécessaires doivent aussi être disponibles pour accompagner les personnes infectées et affectées par le VIH. Et pour arriver à bout de l'épidémie du sida, il faut que tous les groupes à haut risque soient pris en compte, qu'ils aient accès aux services de prévention, de soins et de traitement sans discrimination, précise Marc Sabat, directeur pays de ONU SIDA. Parlons environnement et climat, la France promet 2 milliards d'euros à l'Afrique d'ici à 2020 pour développer ses énergies renouvelables, annonce faite par le président français ce mardi au cours d'un mini-sommet consacré à l'Afrique, rencontre à laquelle ont participé des chefs d'État et de gouvernements africains présents à Paris. Pour François Hollande, l'Afrique subit les conséquences du réchauffement climatique alors qu'elle n'est pas responsable des émissions de gaz à effet de serre. Pour lui, il y a donc une dette écologique que le monde doit régler à l'égard du continent africain. L'essentiel de cette rencontre avec Nounou Ngoy.
Ce mini-sommet consacré à l'Afrique et baptisé « Défis climatiques et solutions africaines » a connu également la participation des bailleurs de fonds dans la Banque mondiale. Ces institutions financières se sont engagées à financer des projets identifiés comme prioritaires pour l'Afrique. Des engagements financiers de plusieurs milliards de dollars qui sont vivement attendus. D'après le groupe des négociateurs du continent noir, l'Afrique attend de la COP21 des engagements concrets et rapides. Et ce sommet doit être l'occasion de rassurer les Africains. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la promotion des énergies renouvelables ou énergies vertes. Ce sujet touche au plus haut point les Africains car sur ce continent, plus de 600 millions d'habitants n'ont toujours pas accès à l'électricité. Autre priorité, relancer le projet de Grande Muraille Verte. Cette idée d'un vaste mur de verdure d'est en ouest du continent vise à freiner la désertification. Enfin, ce sommet s'est aussi penché sur la restauration du lac Tchad, frappé par la désertification et l'insécurité alimentaire.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Okapi, Okapi, Radio Okapi.